VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Kenya, l'opposition affirme aujourd'hui que les résultats de l'élection présidentielle donnant une large avance au président sortant Uhuru Kenyatta ont été truqués par des pirates informatiques ayant réussi à prendre le contrôle du système électronique de collecte des données électorales. Des échauffourées ont éclaté ce mercredi entre police anti-émeute et manifestants à Kisumu, grande ville de l'ouest du Kenya, et un des fiefs du principal candidat de l'opposition à la présidentielle, Raila Odinga. D'après l'AFP, la police a tiré des grenades lacrymogènes en direction de plusieurs centaines de manifestants dans un quartier de la ville où les protestataires avaient érigé des barricades et enflammé des pneus. En RDC, deuxième journée ville morte à l'échelle nationale organisée par l'opposition ce mercredi pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré en décembre 2016. Un mouvement de protestation suivi principalement à Kinshasa mardi. La capitale avait été le théâtre de violences la veille, qui avait fait au moins 12 morts lundi. Et une cinquantaine de responsables présumés de ces violences sont entre les mains de la police, Eddy Sango.
Une cinquantaine de personnes accusées de violence de lundi étaient visibles à la cour de l'inspection de la police à Kinshasa, pieds nus, assis sur des chaises en plastique sous la surveillance des policiers en uniforme. Ces individus sont présentés comme les fauteurs de troubles lundi qui ont fait au moins 12 morts. Certains portaient un béret rouge ou un bandeau rouge autour de la tête. Parmi eux, trois femmes. Fétiches et autres bâtons sont déposés à même les sols avec des posters à l'effigie de Nemwanda Nsemi, gourou du mouvement Bundudia Congo. La secte réclame le départ du président Joseph Kabila, maintenu au pouvoir après expiration de son mandat. Hier mardi, l'activité tournait au ralenti à Kinshasa pour la première de deux journées ville morte appelée par l'opposition qui exige la publication d'un calendrier électoral et le départ du président Kabila.
En RCA, de violents combats ont fait au moins 3 morts à Gambo, dans le sud du pays, parmi les membres de la Croix-Rouge. Les précisions de John Lyndon.
Les combats ont eu lieu il y a quelques jours à Gambo, dont loin de Bangassou, à l'est de Bangui. Selon le président de la Croix-Rouge centrafricaine Antoine Bao-Bogo, le président local, le trésorier et plusieurs volontaires ont été tués. Il dit ne pas avoir le nombre exact de personnes tuées, mais déplore le décès de plusieurs membres de son organisation au centre de santé de la ville. Ces combats ont opposé des milices dites d'autodéfense à des membres du groupe armé Unité du Peuple Centrafricain, faction de l'ex-rébellion Séléka. Un décompte de l'Agence humanitaire des Nations Unies fait également état depuis juillet de 24 morts à Badangafo et une dizaine à Lindao. D'autres combats ont été signalés en Gaoundaï, à la frontière avec le Cameroun et le Tchad, qui ont fait au moins une dizaine de morts et forcé près de 7000 personnes à fuir.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a encore survécu à une motion de défiance de l'opposition, malgré les scandales de corruption, la récession et le chômage record dans le pays. La dernière motion en date a été rejetée hier par le Parlement, bien que le vote ait eu lieu à bulletin secret. Les explications de l'analyste politique Achille Mbembe, joint en Afrique du Sud par Eric Maninakiza.
Monsieur Zuma et l'ANC en sortent substantiellement affaiblis. C'est tout à fait sans précédent dans l'histoire de l'Afrique du Sud post-apartheid. Parce qu'au fond, l'ANC a choisi la voie de la survie et a refusé de sacrifier M. Zuma sur l'autel de la nation. C'est au fond, au début de la grande campagne électorale de 2019, qui risque de déboucher, si rien n'est fait, sur la défaite du vieux mouvement Libération et son éjection du pouvoir.
Est-ce que l'échec de cette motion de défiance renforce implicitement les décisions controversées de Jacob Zuma?
Non. Ce qui est apparu, c'est que la victoire de M. Zuma est une victoire à la Pyrrhus. L'ANC a étalé devant la nation sud-africaine les profondes divisions dont elle est affligée depuis plusieurs années déjà et qui avaient déjà abouti, ne l'oublions pas, déjà à la fondation de Co, à la fondation de l'IFF de Julius Malema, à ces espèces de petites scissions. Et au moment où nous parlons, il y a une faction réformiste très forte à l'intérieur du parti qui risque de s'en aller mais au cas où le cas Zuma n'est pas proprement réglé. Et donc, consacre au fond le début des hostilités. Ce n'est pas la fin du tout.
C'était la quatrième motion de défiance. Est-ce qu'on peut dire que M. Zuma est désormais rassuré de terminer son mandat?
Non. M. Zuma est une vieille casserole qui traîne énormément de scandales. C'est peut-être la dernière motion de défiance au Parlement. Mais il n'y a pas que le Parlement. Il y a d'autres épreuves qui l'attendent devant les tribunaux, devant le Conseil constitutionnel, par exemple. Ce n'est pas du tout la fin de ses tourments. Et cela ne m'étonnerait absolument pas si M. Zuma devait être congédié par son parti lui-même d'ici la fin de l'année.
Pour vous, est-ce que l'ANC a mal joué?
Mais ils n'avaient pas le choix. Ils se sont laissés piéger. L'opposition a très bien joué, choisir d'aller avec Zuma et donc sacrifier la nation ou sacrifier Zuma et choisir la nation. C'était l'alternative qui leur était posée. De deux côtés, ils perdaient. L'ANC écrit victoire, mais tout le monde en Afrique du Sud sait très bien que c'est une victoire pour une bataille, mais ce n'est pas le fond de la guerre.
L'analyste Achille Mbembe, joint en Afrique du Sud par Eric Manirakiza.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, les chauffeurs routiers comptent aller de nouveau en grève dès ce mercredi. Cette fois-ci, c'est pour protester contre les propos du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui a défendu les éléments des forces de l'ordre ayant bastonné les chauffeurs la semaine dernière. Mohamed Lamine Ouedraogo est porte-parole de l'Union des chauffeurs routiers.
La semaine passée, il y avait des accords où il fallait payer les taxes. Introduite par le mois. L'Union des chauffeurs routiers avait pris un accord, donc signé les accords, et maintenant ça devait prendre effet après le 31 juillet. Donc, l'Union des chauffeurs routiers burkinabé ne sont pas opposés, mais ils ont dit que le fait que les chauffeurs aient effectué le voyage, aller sans prendre les taxes avec les propriétaires des véhicules, il est très difficile d'avoir de l'argent au retour pour payer ses taxes. Donc c'est dans ce refus-là qu'il y a eu maintenant un affrontement entre les forces de l'ordre et les chauffeurs. Le ministère des Transports est rentré en contact avec les chauffeurs. Ils sont tombés d'accord maintenant de l'application de la taxe le 1er septembre. Donc ça, c'était rentré dans l'ordre. Maintenant, les chauffeurs ont demandé qu'on passe la lumière sur le pavé commis par les forces de l'ordre. Maintenant, le ministre est sorti les zones hier, dit qu'il n'y aura rien, que les forces de l'ordre n'ont qu'à se rassurer. Et rien ne peut leur arriver. Et même devant les tribunaux, rien ne peut arriver à ces forces de l'ordre.
Mohamed Lamine Ouedraogo est porte-parole de l'Union des chauffeurs routiers au Burkina Faso. En Guinée-Bissau, les fonctionnaires sont en grève depuis hier pour 3 jours. Leur objectif, réclamer une augmentation du salaire minimum et le paiement d'arriérés de salaire. Yacouba Ouedraogo.
L'Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau réclame une hausse du salaire minimum de 19 200 à 59 000 francs CFA et le paiement d'arriérés de salaire depuis 2003. À Bissau, la capitale, les ministères et autres services publics ont été fermés, sauf le principal hôpital où un service minimum a été observé. Selon le ministre des Finances, Aladji Joao Amadou Fadia, cette grève n'a pas sa raison d'être parce que le budget de l'État n'a pas encore été voté par l'Assemblée nationale. Il a ajouté que les responsables syndicaux sont au courant des efforts du gouvernement pour satisfaire leurs revendications. Julio Mendoza de l'UNTG rejette cet argument et estime que l'exécutif n'a pas tenu parole. Les travaux à l'Assemblée nationale sont bloqués depuis plus d'un an à cause des divergences entre le président José Mario Vaz et le PAIGC.
En Côte d'Ivoire, la police recherche les 20 personnes qui se sont évadées hier du palais de justice d'Abidjan, en plein centre de la capitale économique ivoirienne, après avoir agressé des policiers. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le procureur Richard Christophe Adou a déclaré que 10 détenus et 10 déférés se sont évadés vers 11h hier matin. Il a dit que les détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, déférés au palais de justice, ont agressé des agents de police, ce qui a permis l'évasion de 20 personnes. Il a précisé qu'il s'agit bel et bien d'une évasion et non d'une attaque. Mais selon une source judiciaire, l'évasion a été organisée par un commando d'hommes armés qui se sont introduits dans le palais de justice. Dimanche, 5 prisonniers se sont évadés de la prison des Gagnoa dans le centre du pays. Selon le maire de la ville, Bamba Medji, 4 gardes pénitentiaires et un civil ont été arrêtés, soupçonnés de complicité. Depuis les débuts de l'année, il y a eu des séries de mutineries dans l'armée ivoirienne ainsi que des attaques contre des postes de police et de gendarmerie.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.